Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bon, bah bonjour à nos chers auditeurs aussi. Voilà, bah merci de nous recevoir chez vous. Surtout dans cette période-là, bon, bah, on repart sur un petit confinement, mais ce qu'il y a surtout, c'est que les cinémas sont fermés. Bon, bah, ça on s'y attendait évidemment. Et donc, je ne vais pas vous parler des films qui sortent, puisqu'on en reparlera après quand les cinémas ouvriront leurs portes.
Surtout que ces films-là ne sortent pas.
Eh oui, voilà, donc on pourra parler des films... des films récents, des films qui devaient sortir normalement et qui vont être mis en attente, bien sûr, par les cinémas et par les distributeurs.
Et du coup, vu que les films ne sortent pas, on a décidé de vous présenter un film par jour, du coup, donc 7 films lors de cette chronique. Comme ça, vous pourrez regarder un film durant toute la semaine, un film différent par jour. Mais avant de commencer avec la sélection de la semaine, tu voulais faire un hommage à un artiste majeur du cinéma qui nous a quittés la semaine dernière. Il s'agit de Sean Connery.
Voilà, je voulais parler de Sean Connery, oui. Et oui, Sean Connery, il était né en août 1930, et il est décédé le 31 octobre 2020. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Hein. Il avait donc 90 ans, hein, quand on fait les comptes. C'est 90 ans, voilà, ce grand acteur. Quand je dis grand, d'ailleurs, grand dans tous les sens du mot, parce qu'il mesurait quand même 1m88. Oui. Il était quand même assez imposant. Mais grand acteur aussi par le talent, évidemment. Alors, en fait, il est né à Édimbourg. Hein. C'était un Écossais, voilà. Et là, il est décédé à Nassau. Nassau, c'est aux Bahamas, voilà. Ils avaient pris leur retraite avec son épouse aux Bahamas, finalement. Donc, il a été marié deux fois, ce qui n'est quand même pas extraordinaire pour un homme aussi séduisant. Donc, sa première épouse, c'était Diane Cilento. C'était une actrice australienne. Et il a un fils avec cette actrice qui s'appelle Jason. Et Jason Connery, qui a 57 ans. Mais elle, Diane Cilento, elle est décédée plus jeune. Hein. Elle est décédée en 2011. Il l'avait connue en 62. Ils sont restés ensemble jusqu'en 73. Mais en 1970, il a rencontré une femme, voilà, la femme de sa vie, franco-marocaine. Eh oui, c'était une Française. Micheline Roquebrune. C'est Micheline Roquebrune, qui est une artiste peintre, d'ailleurs, et qui a 91 ans aujourd'hui. Donc, ils se sont rencontrés en 1970, et puis il a divorcé, bien sûr, et en 1975, ils se sont mariés jusqu'à la fin, là, jusqu'à fin octobre 2020. Ils étaient toujours mariés. Ils ont vécu une cinquantaine d'années ensemble, quand même. Ce qui n'est pas très ordinaire chez les artistes. Hein. Enfin, c'est un cas rare quand même, surtout avec la vie qu'il avait et tous les films qu'il a tournés. Il en a tourné 74, en tout cas. Donc, c'était pas évident hein, de rester avec la même épouse. Eh bien si, voilà, Micheline Roquebrune qui a annoncé, elle, c'est, elle fait pas avec ça, avec Jason, elle a annoncé donc le décès de Sean Connery. Et alors bon, ils ont, il a eu une très belle vie, c'est sûr. Elle, elle assure aussi qu'ils ont eu une vie de couple extraordinaire. Et lui, il a une très belle vie cinématographique. Et malheureusement, terni, enfin pour lui quoi. Le problème, c'est que vers, enfin depuis quelque temps, c'est ce que sa femme a expliqué, il souffrait de démence. Donc en fait, voilà, sa fin de vie a quand même été un petit peu triste. Mais il est mort dans son sommeil, c'est ce qu'elle a, c'est ce que Micheline Roquebrune a, Connery a annoncé au Daily Mail d'ailleurs qu'il avait appelé. Elle a dit voilà, il est mort dans son sommeil et c'était vraiment paisible, dit-elle. J'étais à son chevet tout le temps et il est juste parti. C'est ce qu'il voulait. Il souffrait de démence et ça l'a énormément affecté. Son dernier souhait était de partir sans bruit, donc il a été exaucé. Il n'arrivait plus trop à s'exprimer à la fin, donc il supportait plus, quoi. C'était quand même très dur pour lui, qui était quand même un homme très ouvert, très, très ouvert aux autres. Et, voilà, quand même, hein, il n'a pas eu une vie cachée. Il a donc eu une vie trépidante et une jolie vie de couple. Tant mieux, on est, tant mieux, c'est si rare finalement dans le milieu artistique. Alors, dans ses films, ben oui, il a été quand même le James Bond pendant 6 fois de suite. Alors, il a été le... Il a, à l'époque, quand il s'est fait remarquer, il faisait un peu de théâtre. Et puis, il a passé une audition, voilà, en 1961, pour savoir s'il pouvait incarner James Bond. Évidemment, il a été choisi, c'est sûr, presque tout de suite. Le premier James Bond, c'était James Bond 007 contre Dr. No en 1962. Après, il y a eu Bon Baiser de Russie en 1963. En 64, c'était Goldfinger. En 65, c'était Opération Tonnerre. En 67, c'était On ne vit que deux fois. Et le dernier, Les Diamants sont éternels, en 1971. En fait, il a souhaité à ce moment-là, en 71, arrêter la série de James Bond parce qu'il voulait faire autre chose et que du coup, il restait cantonné dans ce même rôle et qu'il aspirait à d'autres scénarios, à d'autres films et puis surtout à d'autres réalisateurs. Voilà. Et bien lui en a pris. Parce que finalement, il a tourné dans des films formidables. Le dernier, en 2003, c'était La Ligue des Gentlemen, extraordinaire. Et puis sinon, il a eu quand même Highlander, Le Retour. Il a eu Family. C'était en 1989, ça. C'est très, très, très chouette, hein, Family Business. On rit d'un bout à l'autre, d'ailleurs. Hein. C'est très très drôle. Robin des Bois, Prince des voleurs en 91. Presidio, base militaire, c'était en 88. J'ai un peu dans tous les sens. Hein. Bandit, c'était en 1981. Eh oui. Et puis il y a eu Le Soleil Levant aussi. Soleil Levant en 93. Et un très très beau film en 2000, À la rencontre de Forrester. Très 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 beau. Et puis il y a eu Rock en 96. Il y a eu la poursuite d'Octobre Rouge en 90. Les Incorruptibles en 87. Ah oui, pour ce film, il a eu l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Les Incorruptibles. On l'a vu dans Indiana Jones et la dernière croisade en 89. Voilà, bon, j'ai donné un peu dans tous les sens, mais c'est parce que j'avais en mémoire aussi en même temps quand même des films que j'ai vus et que j'avais beaucoup appréciés. Voilà. Donc il y en a eu d'autres, hein, 74, il y en a eu beaucoup d'autres. Il ne s'est jamais arrêté, en fait, il lui arrivait même de tourner deux films dans la même année. Ça lui est arrivé. C'était quelqu'un qui était très, très bosseur, hein, tout à fait. Très très vaillant, un acteur très vaillant. Voilà, il a quand même cumulé 5 prix, il a eu pas mal de nominations aussi, une dizaine. Oui, il a eu un beau parcours cinématographique et un beau parcours de vie privée. Voilà, et acteur, producteur écossais, britannique, Sean Connery.
Et il a été décerné, voilà. Lord par la reine d'Angleterre également.
Oui, tout à fait. Donc, sœur, Sean Connery, c'est ça que tu voulais dire.
C'est ça, tout à fait, oui.
Sœur Sean Connery. Il n'en parlait jamais, d'ailleurs. C'était quelqu'un, on ne savait pas grand-chose de lui, c'était quelqu'un de très discret dans sa vie privée, même dans sa vie cinématographique. Il était, c'était pas quelqu'un qui se mettait en avant. C'était ah oui, il y a un film que j'ai pas cité, que j'adore, moi je l'ai, je le regarde constamment, c'est Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock, d'Alfred Hitchcock, et qui est magnifique, magnifique. Mais c'était vraiment un grand acteur. Au nom de la rose aussi. Ah mais oui, mais j'aurais dû le citer Au nom de la rose, parce que pour Au nom de la rose, il a eu le César du meilleur acteur quand même en 1986. Pour Marnie, Le nom de la rose. Oh, j'ai pas parlé de La colline des hommes perdus en 1965, très chouette aussi. Le jour le plus long, on le voit dans Le jour le plus long en 1962. Pas de printemps pour Marnie, c'était en 1964. Voilà. Vraiment, il y a de très 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 bons films dans toute sa sélection de films. Sur les 74, il y en a énormément qui sont excellents. Et qui ont fait des entrées très très importantes.
D'accord.
C'était quelqu'un qu'on allait voir un peu sur son nom quand même. Hein. Quand on voyait Sean Connery, on se disait « Ah, je vais peut-être y aller parce que ça doit être un bon film ». Comme c'est une expression que j'aime pas trop, mais aux États-Unis, ils appellent ça « être bankable ».
Oui.
C'est-à-dire un acteur bankable, c'est-à-dire un acteur dès qu'il y a, qui a, avec son seul nom sur l'affiche, attire le public.
Mm-hmm.
Bon, voilà. C'est rare, il y en a très peu quand même. Hein.
Mais
en France, on a eu Belmondo pendant longtemps. Quand son nom était sur l'affiche, les gens allaient voir le film. Ouais. Par exemple, hein, je pense à ça, comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres, hein, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Voilà.
Donc voilà pour l'hommage à Sean Connery, donc qui nous a quitté le 30 octobre dernier. Et oui. Donc maintenant, nous allons voir les coups de cœur de Anne pour cette semaine.
Excuse-moi, mais je crois que je me suis trompée. J'ai dit le 31 octobre. C'est le 30 alors. Hein. Mince,
T'as dit le 30 tout à l'heure, donc c'est pour ça que...
Ah, je croyais avoir dit le 31. Mais c'était le jour d'Halloween. C'était quand?
Donc c'est le 31, Halloween. Halloween, c'est le 31.
Ah ben alors, il est décédé le 31 en réalité.
D'accord.
C'est pas le 30, donc, parce qu'il est décédé effectivement le jour d'Halloween.
Ok. Donc, ouais. C'était le
30. C'est pour ça que ça reste un peu dans les mémoires. Ça va rester un peu dans les mémoires du fait qu'il est parti ce jour-là, justement. Lui qui était tellement plein de vie, ben voilà,
mais
il
oui.
est parti le jour d'Halloween.
Très bien.
Donc c'était le 31, là. Je m'étais trompée.
Voilà. Le 31. Donc maintenant, nous allons partir avec les coups de cœur de la semaine. Donc,
oui.
C'est un film par jour que tu nous conseilles. Et on va débuter en ce jour par 7 ans de mariage, un film sorti en 2003.
Oui. Est-ce qu'on peut dire s'il existe en VOD? Je pense que oui. Hein. J'avais vérifié, on peut le louer pas cher du tout. C'est pour ça que je vais pas donner des films trop anciens, mais surtout pas des films trop trop récents, parce qu'ils sont beaucoup plus chers et on les a pas tous encore en VOD. Donc je vais choisir des périodes de films qu'on peut trouver, qu'on peut louer pas cher. Je sais pas, il y a quoi, il y a VOD, il y a quoi encore, il y a d'autres.
Il y a en DVD ou.
Oui, en DVD bien voilà. sûr, mais sinon. On peut louer sur la télévision.
C'est la vidéo à la demande que l'on peut trouver donc sur différents supports, mais la vidéo, ça s'appelle ça la vidéo à la demande.
Les gens qui aiment le cinéma connaissent, hein. Ils connaissent tout, ils connaissent, ils savent où ils peuvent louer, ils connaissent tout ça. Donc, mais pour les autres qui connaissent moins, VOD, il suffit de chercher, c'est pas très cher, hein. C'est des locations à 2,50 €. Voilà. Alors oui, tu disais 7 ans de mariage, oui, qui est sorti en juin 2003, qui dure 1h33. Alors là, on a Didier Bourdon, on a Catherine Froh. Bon, moi, je ne sais pas, je l'ai en DVD et je ris à chaque fois, quoi. J'avoue que ce film, évidemment, moi j'ai été attirée par le fait qu'il y avait Catherine Froh. Bon, Catherine Fro, qui est une grande actrice et qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est bankable. Hein. Je ne sais pas si elle est encore, mais elle l'a été beaucoup quand même. Hein. Quand son nom était à l'affiche, on avait envie de voir le film. Donc, c'est un... il y a Jacques Weber également dans ce film. C'est un film français. Alors, c'est l'histoire de Audrey et Alain qui sont mariés depuis 7 ans et qui s'enlisent dans la routine. Ils ont une petite fille, Camille, et ils travaillent tous les deux. La vie quotidienne a usé leurs désirs. Audrey est cassante, rigide, tandis qu'Alain se promène en cachette sur les sites porno. Pour tenter de sauver son couple, il consulte un ami sexologue. Celui-ci lui conseille de mettre en pratique ses fantasmes et de se livrer aux jeux érotiques dont il rêve avec sa femme. D'abord hésitant, Alain va entraîner Audrey dans un univers de luxure fait d'échangisme, de voyeurisme et de sex shop. Malgré sa méfiance, celle-ci se laisse prendre au jeu. Alain, lui, est vite dépassé par les événements. Alors c'est d'autant plus drôle que quand on imagine que le médecin, enfin le sexologue qui consulte, qui est un ami, il le connaît d'ailleurs, c'est Jacques Weber qui joue le rôle, est lui-même complètement en panne avec sa femme, c'est-à-dire que sa femme refuse absolument de lui ouvrir la porte de sa chambre. Et c'est lui qui conseille au couple comment faire pour sauver sa vie sexuelle. Donc c'est le côté terrible, le côté amusant en même temps, bien sûr. Mais bon, voilà. C'est quand même... c'est drôle. C'est... Bon, il n'y a pas de vulgarité, hein, parce qu'avec Didier Bourdon, Catherine Fro, Jacques Weber, non, il n'y a pas de vulgarité. Il y a juste des scènes quand même tordantes. Comment on peut entrer dans un sex shop et surtout qu'elle trouve à l'intérieur du sex shop... Le vendeur, un des vendeurs, est un client, elle est banquière, elle, est un de ses clients à qui elle vient de retirer sa carte et ses carnets de chèques. Parce que, évidemment, il est dans le rouge à la banque et il est vendeur dans ce sex shop. Donc il va y avoir des situations extrêmement ubuesques, très drôles dans ce sex shop, quoi. Avec cet homme-là qui va la tutoyer, qui va être très... C'est très plaisant, hein, c'est tout très très plaisant. voilà, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, parce que je trouvais que ça valait la peine. Et dites, il va falloir faire un peu dans le drôle un peu quand même, hein, ces temps-ci. Alors oui, on va essayer d'éviter hein, les gros drames. Bon, il y a des drames très jolis, mais il y a des gros drames qui sont quand même un petit peu... On va attendre un petit peu pour les gros drames. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que tu avais ensuite alors ?
Alors, maintenant, nous allons présenter un deuxième film, donc...
Alors c'est le huitième quoi ?
Le huitième jour.
C'est le huitième jour, donc, qui est un film absolument magnifique.
Ce film-là remonte, il est sorti en 1996.
Oui, il est sorti le 16 mai 1996. Ah oui, j'ai peut-être pas dit, 7 ans de mariage, ça dure 1h33. Donc là, on est dans une comédie dramatique hein, qui dure 1h58, je le dis tout de suite, hein, comme ça ce sera fait. J'aurais quand même pu souligner, parce que ça me paraît quand même important, le film de 7 ans de mariage est réalisé par Didier Bourdon. Il joue dedans, mais il réalise le film. Hein. Voilà, je crois que je ne l'avais pas dit. Tu vois, à chaque fois que je fais un hommage pour un acteur, après je pédale dans la semoule. À chaque fois, j'ai des émotions. Et du coup, après, je suis obligée de me... Voilà, il faut que je me concentre. Ah oui, ça fragilise là les hommages un peu. Hein. Ça fragilise un peu. Alors là, ce film, il est de Jaco van Dormael. Donc, c'est un film, il y a Daniel Auteuil, il y a Pascal Duquesne. Alors, merveilleux Pascal Duquesne, qui joue justement le rôle de l'autiste. C'est formidable. Alors, c'est un film britannique, français et belge, puisque Jaco van Dormael est un réalisateur belge. Il y a également Miu Miu dans ce film. Alors, c'est l'histoire d'Harry. Alors, Harry, c'est Daniel Auteuil, qui est un homme seul qui se voue 7 jours sur 7 à son travail. Tout va basculer quand il va rencontrer Georges, une personne handicapée mentale qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. Le film a eu un prix et 9 nominations, totalement mérité, alors là, absolument. Et Pascal Duquesne, ben c'est lui qui joue le rôle de Georges. Et j'avais un... Je voulais quand même... J'avais le, un petit extrait du 8e jour. Au commencement, il n'y avait rien du tout. On en... En parlant de Dieu, hein, ce qu'il a fait, ce que Dieu fait quand il fabrique les humains, le premier jour, il fit le soleil. Ça, c'est, ça pique aux yeux. Le deuxième jour, il fit l'eau. Ouh, c'est inouï, ça mouille les pieds si on marche dedans. Et puis, il a fait le vent. Ça chatouille. Hein. Le troisième jour, il fit l'herbe. Quand on la coupe, elle crie, elle a mal. Il faut la consoler, lui parler gentiment. Si on touche un arbre, on devient un arbre. Le quatrième jour, il fit les vaches. Quand elles soufflent, c'est chaud. Le cinquième jour, il fit les avions. Si on ne les prend pas, on peut les regarder passer. Le sixième jour, il fit les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Alors, Georges nous dit, je préfère les femmes et les enfants, parce qu'ils ne piquent pas quand on les embrasse. Le septième jour, pour se reposer, il fit les nuages. Si on les regarde longtemps, on y voit dessiner toutes les histoires. Alors, il se demanda s'il ne manquait rien. Et le huitième jour, il fit Georges. Et il vit que c'était beau. C'est très, très joli le texte qu'il y a dans le film à un moment donné. Je le trouve tellement beau que, voilà, que j'ai eu envie de vous le... De vous le donner, quoi. Mmh. Et voilà. Donc le huitième jour, bah oui, c'est. Mais c'est très beau, hein. C'est absolument pas triste du tout. Absolument pas. Il n'y a pas de, de misérabilisme, il n'y a pas de, de truc. Ah non, non, non. Et l'acteur, je... Pascal Duquesne, là, il est formidable, quoi. Il est vraiment extraordinaire. Bah, Miu Miu, Daniel Auteuil, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, ils sont parfaits. Oui. Le huitième jour.
Donc voilà. Voilà. Le deuxième jour.
Ensuite voilà. Alors.
Et là on part là. Avec un film sorti en 2008, un film de Marie-Lou Berry qui s'appelle Vilaine.
Voilà. Et oui. Et ça s'appelle.
Vilaine.
Vilaine. C'est pas gentil ça. Oui, il est sorti en novembre, d'ailleurs le 12 novembre 2008. Il dure 1h33, c'est une comédie. Alors, elle joue dedans, c'est pas elle qui l'a réalisé. Elle a fait des réalisations après, depuis elle a réalisé des films. D'accord. Mais là, c'était Jean-Patrick Bénès et Alan Mauduit. C'est une co-réalisation. Alors, il y a Marie-Lou Berry, il y a Frédéric Bell, il y a Pierre-François Martin Laval. C'est un film français. Alors, Mélanie, c'est l'histoire de Mélanie. Mélanie, c'est Marie-Lou Berry, effectivement, qui est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa voisine le savent. Et ils en profitent. Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer. Désormais, elle va se venger de tous ceux qui lui ont pourri la vie. Sauf que la méchanceté, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie. Un prix, trois nominations pour ce film. Ah, c'est pareil. Alors moi, j'avais trouvé le DVD pas cher du tout d'ailleurs. Je le regarde de temps en temps pour le plaisir. Vraiment pour le plaisir. C'est vraiment très, très chouette. C'est Marie-Lou Berry, en fait, on commençait à comprendre qu'elle avait du talent, là, à voir son talent. On la sentait vraiment... Bah oui. C'est-à-dire que sa maman, c'est Josiane Balasko, qui a énormément de talent, évidemment. Et donc, voilà. Pourquoi pas suivre le talent de sa maman. Eh ouais. Mais elle, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a bien suivi le talent. Depuis, on l'a vu dans un tas de films. Elle a beaucoup réalisé. Ça se passe toujours très bien pour elle. Voilà. Vilaine,
donc c'est le choix de Anne pour cette semaine. Et un autre film, oui. Là on remonte dans le temps, c'est un film avec Annie Girardot qui s'appelle oui. Tendre Poulet et c'est sorti en 1978.
Oui, c'est sorti en janvier 1978, ça dure 1h45, c'est une comédie, c'est aussi un peu, il y a de l'action, c'est policier, voilà, c'est un film de Philippe de Broca, qui est un grand réalisateur qu'on connaît. Alors il y a Annie Girardot, il y a Philippe Noiret, il y a Catherine Alric, Et oui, il y a aussi Francis Perrin, très très drôle dans un rôle. Et on verra ensuite, c'est dans le deuxième en fait qu'on parlera d'un autre acteur. Alors dans celui-là, donc, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire de Lise Tanquerel. Tanquerel, en fait il l'appelle Tanquerel, ça s'écrit Tanquerel, mais on dit Lise Tanquerel. Elle est commissaire à la ville, c'est Annie Girardot. Elle rencontre par hasard Antoine Lemercier, une vieille connaissance d'école. Elle le rencontre le jour, elle le renverse avec sa voiture. Il s'impose dans sa vie mouvementée, car Lise enquête sur des meurtres en série de plusieurs députés. Elle découvre que tous fréquentaient la même call girl. La call girl d'ailleurs, c'est Catherine Alric. Catherine Alric qui était superbe. Hein. Très très belle, très bonne comédienne. Et voilà, c'est elle qui... On les reverra de toute façon, parce que il y a eu une suite. Donc la suite, c'est on a volé. Et qu'est-ce qu'on a volé, Damien?
Alors là, on a volé la cuisse de Jupiter.
La cuisse de quelqu'un.
La cuisse de Jupiter.
On a volé la cuisse de Jupiter.
C'est sorti en 1980, celui-là.
Voilà, c'est-à-dire 2 ans après, en février 80. C'est une comédie également, bien sûr, c'est français, ça dure 1h42, c'est de Philippe de Broca, et on reprend les mêmes. On reprend les mêmes acteurs, absolument. Et on en rajoute un, parce que celui-là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'était Roger Carrel. On a fait un hommage, là, à Roger Carrel. C'était en novembre. Oui, c'est ça. Non, le 11 septembre, pardon, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas en novembre. C'était le 11 septembre 2020. Voilà, il est décédé le 11 septembre 2020, Roger Carrel. On lui a fait un hommage à l'antenne là, de Radio Entre-deux-Mers, parce que quand même, c'était quelqu'un d'énorme dans le spectacle, dans le monde du spectacle. Et il est dans ce film, il est dans le deuxième, là. On a volé la cuisse de Jupiter. C'est toujours l'histoire de Lise Tanquerel et d'Antoine Lemercier. Ils ont convolé en Grèce. Ils se sont mariés. Et puis, ils sont allés en Grèce pour leur voyage de noces. Voilà. Ils se marient et partent en Grèce. Elle se met en congé, la commissaire, un petit peu agitée. Donc, ils partent. Et ils y rencontrent, là-bas, Charles Hubert Pochet. C'est Francis Perrin. Un archéologue qui a découvert un marbre d'Aphrodite dont il ne reste que les hanches et le fessier. La pièce d'antiquité est dérobée, le film est la suite de Tendre Poulet. Alors c'était formidable qu'ils sortent cette suite, parce que voilà, bon, c'est ça va à toute vitesse, ils vont tous à 100 à l'heure, c'est drôle, c'est tendre, ça bouge beaucoup et c'est de grands acteurs. De grands acteurs qui tiennent ce film. Et voilà. Alors, si vous... Bon, vous allez certainement le trouver, bon, à louer, mais sinon, si vous trouvez le DVD, c'est un DVD où il y a les deux parties, normalement, les deux parties ensemble.
D'accord.
C'est-à-dire Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter. On peut avoir les deux. J'allais dire pour le même prix, mais c'est pas ça. Mais on peut avoir les deux dans la même pochette.
D'accord.
Sinon, voilà. Sinon, on peut les avoir séparément. Mais franchement, ça vaut la peine. Vraiment. Alors oui, ce qui est important, c'est que les dialogues sont de Michel Audiard. Alors, lui aussi était bankable.
Et ce n'est pas rien, oui.
Alors, quand on voyait les dialogues de Michel Audiard, on se précipitait pour voir le film. Pour se détendre, pour se faire du bien. Mais là, ces deux-là, franchement. Oula, à regarder en famille, en plus. Tous ces films sont à regarder en famille, hein. En ce moment, ça vaut la peine, hein, parce que si on est tous ensemble, les parents et les enfants, voilà, donc tout le monde peut regarder, même les très jeunes. Il n'y a pas de film, là, interdit au moins de 10 ou 12 ans. Tout le monde peut regarder, là.
Donc, Tendre Poulet
et les enfants.
Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter. Et après, on va continuer avec un autre diptyque, c'est Docteur Doolittle, déjà,
voilà,
sorti
pareil,
en 1998, un film avec Eddie Murphy.
Voilà, le premier, Le premier est sorti en août 98. C'est une comédie, c'est pour la famille. Il y a, alors évidemment, c'est fantastique. Eh oui, il y a du fantastique. C'est, ça dure 1h25. Alors le premier, le premier Docteur Doolittle, a été réalisé par Betty Thomas. Voilà. Et il y a donc, tu disais, Eddie Murphy. Ah ben oui, évidemment. Il y a Peter Boyle, il y a Olivier Platt aussi, voilà, dans ses films. Alors, dans ce film, alors quand il était enfant, le fringant docteur John Doolittle possédait un don merveilleux, celui de communiquer avec les animaux. Ah oui, quoi de plus merveilleux? On en rêve tous. Quand son père s'en aperçoit, il y met immédiatement bon ordre et le petit John se mit à travailler à l'école et oublia ce pouvoir. Mais voilà qu'après avoir refoulé pendant des années la plus précieuse de ses facultés, le docteur Doolittle la redécouvre un soir où il manque d'écraser un chien errant et s'entend distinctement traité de chauffard par l'animal offusqué. Oui, alors au début, effectivement, le père, lui, il est pas, il pense que son fils a un petit grain, quoi. Enfin, ça fait peur à son père quand il lui dit qu'il peut parler aux animaux. Tous les pères, je pense, réagiraient de la même façon, en disant bon, oh là là. Ah oui. Le début, il y a même une scène un petit peu tristounette parce qu'il avait un chien qu'il aimait beaucoup, le petit John, et son père va le séparer de ce chien au départ. Mais ce n'est pas un film triste, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'après on le revoit, il est vétérinaire, et là c'est autre chose. Alors évidemment, c'est très chouette. On ne peut pas, si on aime les animaux, et même si on ne les aime pas d'ailleurs, je veux dire, même si on n'est pas passionné par les animaux, c'est un film extrêmement sympathique. Eddie Murphy, à l'époque, était en grande forme. Il était justement bankable à cette époque-là. Il avait vraiment, voilà, il avait beaucoup de talent. C'était son époque. Voilà. Après, bon, après, avec le temps, il a fait des choses un peu moins bonnes, mais bon, il a un peu changé. Mais là, à cette époque-là, il était flambant, Eddie Murphy. Et puis, évidemment, il y a le deuxième, la suite. C'est la suite absolue, puisque de toute façon, c'est avec les mêmes acteurs, avec les mêmes... voilà, donc c'est vraiment... c'est le même qui... Le temps passe, mais enfin, c'est toujours lui, il est toujours vétérinaire. C'est sorti en août 2001. Ça dure 1h22, donc considéré toujours comme une comédie fantastique. Alors, il y a toujours Eddie Murphy. Il y a... et là, il va y avoir quand même un personnage, un autre personnage qui jouera dans les autres Doolittle, qui jouera le rôle de sa fille. Elle est déjà là dans le Doolittle 2, c'est Kyla Pratt, ou Kyla, mais je pense qu'on dit Kyla, Kyla Pratt. Qui joue dans le 2. Dans le 2, d'ailleurs, elle a 14-15 ans. Et c'est sa fille qui aime les animaux, etc. Donc, depuis qu'il communique avec les animaux, sa vie est devenue une véritable course contre la montre pour recevoir et traiter les mammifères, reptiles et oiseaux de toutes races. Ils viennent tous le trouver pour être soignés. Voilà, il est envahi constamment par les animaux. voilà, avec qui il discute et puis qui doit soigner. Un jour, ses patients, un peu spéciaux, lui demandent d'intervenir contre deux promoteurs cyniques qui menacent de raser leur forêt pour y construire des immeubles. Afin de sauvegarder ce petit coin de nature, Doolittle déniche dans les bois une espèce protégée, une ours nommée Ava. Reste à lui fournir un compagnon pour perpétuer la race. Le bon docteur, aidé de son fidèle chien Lucky, croit avoir trouvé le candidat idéal en la personne d'Archie, un adorable ours de cirque. Mais celui-ci s'est tellement bien acclimaté à la ville qu'il n'a aucune envie d'abandonner son cher public et de déserter les fast-foods pour se retrouver livré à lui-même en pleine forêt. Eh oui, il est habitué à la vie de la ville, les fast-foods aussi. Il mange des hamburgers, Archie. Il n'a pas du tout envie d'aller se perdre, d'aller s'ennuyer dans une forêt. Mais ça se passera bien. C'est un film extrêmement drôle et très optimiste et qui se finit très très bien. Il y a pas de souci là-dessus. Alors, on a vu après qu'il y a eu quand même le Docteur Dolittle 3. Alors là, dans le Docteur Dolittle 3 qui est sorti en 2005, c'est justement Keira Pratt là, qui est sa fille, qui s'appelle Maya Dolittle, et qui jouera dans le 3, dans le 4 en 2007 et dans le 5 en 2009. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'au début elle a 15 ans, après elle en a 21, après elle en a 23. Elle devient vétérinaire également. Par amour pour les animaux, avec qui justement elle converse, avec qui elle discute. Elle a hérité du don magique de son père. Donc il y en aura à la suite comme ça, il y en aura donc 5 en tout. Voilà. Mais à partir du 3, Eddie Murphy n'est plus dans l'affaire. C'est elle, Keira Pratt, qui prend les rênes. Voilà. Moi, ce sont les deux premiers qui me plaisent énormément. Les autres, oui, le 3, le 4 et le 5, je les ai vus, j'ai moins aimé. Mais bon, bien que l'actrice soit tout à fait délicieuse et très douée. Mais je sais pas, les deux premiers étaient quand même différents. C'était aussi une nouveauté, bien sûr. Mais quand même, Eddie Murphy était vraiment, vraiment très, très en forme à ce moment-là. Et il est très, très, très bon dans ce rôle. Excellent même, dans le rôle du vétérinaire qui parle aux animaux. Voilà. Voilà donc. Est-ce que, Damien, tu es toujours là ?
Oui, oui, je suis bien là. Et donc, ben, merci pour la présentation de ces films. Donc, on a décidé, en ce temps de confinement, de vous présenter un film par jour, donc, à regarder par jour. Donc, cette semaine, Anne vous proposait 7 ans de mariage, le 8e jour, Vilaine, Tendre poulet, On a volé la cuisse de Jupiter, Docteur Dolittle 1 et 2. Donc, Docteur Dolittle 2. Les deux premiers épisodes avec Eddie Murphy. Mais merci beaucoup, Anne.
Voilà, j'ai voulu démarrer avec des films légers, drôles et bien faits. En même temps, ce sont de très bons films. Ils ont pratiquement tous eu un prix et des nominations, d'ailleurs. Mais je voulais faire dans le léger pour débuter. Il faut préciser à nos auditeurs, Damien, que là, nous sommes en télétravail. C'est-à-dire que toi, tu es au studio, mais moi, je suis au téléphone.
Oui, ça s'entend, t'inquiète pas.
Voilà, ce qui n'est pas toujours très facile, c'est beaucoup moins facile que d'être au studio, évidemment.
C'est ça.
Mais en tout cas, je vous souhaite, chers auditeurs, mes chéris, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se réentend plutôt. La semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous, de votre entourage, bien sûr, vos proches. Et puis, essayez de garder le moral, surtout. Hein. Voilà. Ce confinement sera un peu moins long, peut-être, espérons, que le premier, un peu moins drastique aussi. Espérons que ça va aller pour tout le monde. Hein. On peut avoir une pensée quand même pour les gens qui sont confinés dans des petits appartements, qui n'ont pas tous la chance d'être comme nous ici, hein, sauveterre et tous les environs, où c'est quand même déjà la campagne, voilà, où il y a plus de... C'est peut-être plus facile, hein, peut-être plus facile que dans les villes, les grandes villes où les gens sont confinés dans des... parfois... dans des petits appartements, c'est pas toujours évident. En tout cas, on remercie tous les services hein, qui sont actifs, hein, puisque les télécoms continuent à travailler. Et puis on remercie évidemment Radio Entre-deux-Mers, remercier les personnels de santé, les pharmacies, les hôpitaux, les ambulances, les aides à domicile, enfin tous ces gens qui se dévouent. Pendant le confinement, on a connu ça déjà hein, en mars, le dévouement de tous ces gens-là. Et puis les personnels de grande surface aussi quand même. Hein. Les épiceries de village, les épiceries de quartier, les producteurs, tout ça, voilà, les éboueurs, les pompiers, le personnel de sécurité, tous ces gens qui, pendant le confinement, prennent quelques risques parfois pour faire leur travail, hein, pour aller jusqu'au bout de leur travail. Puis voilà, et puis tous ceux qui se dévouent pour leurs voisins, si on a des voisins un peu âgés et qu'on peut leur faire les courses, qu'on peut faire des choses pour eux, et voilà, ben on a, pour quiconque a besoin d'aide, hein, tous ceux qui se dévouent, on les remercie en tout cas. On les remercie, on les admire beaucoup, voilà. Et puis on pense aux familles qui vont être encore un peu séparées là, qui se trouvaient pas au même endroit et qui ne vont peut-être pas pouvoir se retrouver tout de suite, voilà. Un grand merci à vous aussi, chers auditeurs, qui respectez le confinement. On le sait, on vous connaît. Merci beaucoup. Et puis n'écoutez pas trop les nouvelles non plus, parce que bon, c'est toujours un peu stressant. De temps en temps, il faut lâcher un peu ça. Hein, parce que c'est un peu anxiogène aussi quand même. Donc ça fait du bien aussi de regarder un film plutôt que d'écouter les nouvelles. De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Eh bien, au revoir. N'oubliez pas que je vous aime, en tout cas. Bisous. Bisous.
Silence.